Amis auditeurs de Radio B, bonjour. Radio B, la radio des bonnes ondes, 90.0. Vous êtes dans l'émission Musique au pluriel en compagnie de Paul Turchet et de Bruno Point. Et nous continuons aujourd'hui notre série d'émissions que nous avons consacrée, c'est presque le fruit du hasard, mais c'est ainsi, aux compositeurs russes du début du XXe siècle. Nous avons parlé de Rachmaninov et de Scriabine. Antérieurement, nous avions fait au moins deux émissions sur Tchaïkovski. Quelques rappels historiques. Tchaïkovski, c'est le plein 19e siècle, 1840-1893. C'est vraiment le compositeur qui a marqué la Russie et la musique en Russie. Ensuite, on a trois compositeurs dont le cheminement est parallèle au niveau temporel, à savoir Rachmaninov, né en 1800 et décédé en 1943, donc première moitié du XXe. Scriabine, lui, né la même année pratiquement que Rachmaninov, mais décédé rapidement en 1915. Et Stravinsky, lui, né 10 ans après, en 1882, j'allais dire mais, et grâce pour lui, je dirais, décédé en 1971. Donc il a traversé tout le XXe siècle. Il l'a vraiment profondément marqué. Il est aujourd'hui considéré comme un des plus grands compositeurs du début du XXe siècle. Il est fondamentalement différent de Rachmaninov et de Scriabine. Et nous allons aujourd'hui un petit peu faire cet inventaire de marquer à la fois leur parcours, leur similitude, leur formation, leur goût à l'origine et leur parcours différent. Nous allons démarrer un peu sous forme d'une boutade. Stravinsky aura eu plusieurs styles. On ne peut surtout pas dire qu'il a touché à tout parce qu'il a tout inventorié et il est allé dans tout d'une manière très profonde avec beaucoup, beaucoup d'études, de réflexions. Mais il avait aussi beaucoup d'humour et il a écrit un ragtime. Nous allons commencer par ce ragtime que nous avons coupé en deux. La première partie, c'est une seule œuvre, mais elle existe sous plusieurs versions, et notamment pour petit orchestre et pour piano. Donc nous l'avons saucissonné pour faire la première partie orchestre avec un accompagnement de cymbalum, instrument des Pays de l'Est s'il en est, puis au piano par un grand pianiste français très sérieux, Noël Lee. Écoutons le ragtime.
Thank you. Igor Stravinsky naît le 17 juin 1882 en Russie. Il sera plus tard naturalisé français, puis même américain. Il passe toute son enfance à Saint-Pétersbourg et son père est une basse qui chante, et qui chante fort bien, au théâtre Mariinsky. Pour autant, ses premiers contacts avec la musique sont assez tardifs. Il a deux expériences de concerts qui sont importantes pour lui. Il commence à apprendre le piano à 8 ans, à 9 ans. Et puis, ce qui l'intéresse au piano, c'est surtout en fait l'improvisation qui lui permet de se familiariser avec l'instrument et d'inventer des sons. Il a un professeur de piano, Madame Kachnerova, qui est une professeure extrêmement rigide et très autoritaire. Il essaye de composer, et puis ça ne marche pas très fort. Et son père l'inscrit d'office à la faculté de droit de Saint-Pétersbourg. Le droit ne l'intéresse pas, et c'est à la mort de son père, quelques années plus tard, qu'il fera semblant de continuer à aller à la fac, mais qu'il se lancera véritablement dans la musique en prenant des leçons d'harmonie et de contrepoint. Et puis il passera à l'essentiel de ses soirées au théâtre Mariinsky pour écouter les concerts. Le point tournant de sa carrière et de son éducation musicale, c'est sa rencontre majeure avec Rimsky-Korsakov en 1902. Il demande à Rimsky-Korsakov de lui donner des cours parce qu'il veut devenir compositeur. Et Rimsky-Korsakov lui déconseille de poursuivre le conservatoire, mais de prendre des leçons d'harmonie et de contrepoint. Puis, il commence à lui donner des leçons en écoutant sa sonate pour piano. Et ils resteront liés jusqu'à la mort de Rimsky-Korsakov, qui va rester pour Stravinsky, bien sûr, le formateur, le père fondateur de sa technique et de son apprentissage musical. Et il y a une sorte de jeu entre eux, d'ailleurs. Rimsky-Korsakov donne à Stravinsky des devoirs. Il lui demande d'orchestrer des pages de la partition d'un de ses nouveaux opéras. Et lorsqu'il a orchestré un fragment, Stravinsky lui montre. Et Rimsky-Korsakov lui explique pourquoi lui, il aurait orchestré différemment, etc. C'est un jeu intellectuel, mais en même temps, absolument fondamental dans la formation de Stravinsky. Nous allons écouter maintenant un extrait de sa première symphonie de 1907, qui, vous le verrez, reste, on va dire, très, très russe, bien qu'il n'aimait pas les romantiques. Il disait de Tchaïkovski, bien que c'est un très grand compositeur, j'aime pas quand ça se met à grimper, et ces grandes envolées lyriques et pathétique. Mais vous, verrez, vous allez écouter cette première, un extrait de cette première symphonie qui démontre que, à ce stade-là, Stravinsky reste éminemment classique, russe et un petit peu, ou en tout cas post-romantique.
Ce que vous venez d'entendre, vous ne l'entendrez plus au cours de cette émission. Nous avons là une musique qui est vraiment en droite ligne de Tchaïkovski, un descendant des symphonistes russes, et peut-être un peu allemand aussi d'ailleurs. et qui reflète, je dirais, l'influence de ce qu'a écouté Stravinsky. Mais il va s'en détacher, et je dirais presque que ça va être un des chantiers de sa vie. Un des chantiers de sa vie va être de refuser le romantisme, de refuser l'émotion. Il disait, par provocation, mais avec un grand fond de vérité, la musique n'exprime rien. Donc pour lui, la musique était un art dont la technique devait prévaloir. Il fallait vraiment construire, il fallait intellectualiser, encore qu'il avait beaucoup de fougue, et il va passer de ce romantisme enfanté par Tchaïkovski à une musique avec beaucoup de violence, beaucoup d'animosité, beaucoup d'énergie, des accords, beaucoup de couleurs. Il va se démarquer de ce romantisme qui nous donne de l'émotion pour aller vers l'énergie, le rythme et la couleur. Nous allons écouter une œuvre qu'on peut presque qualifier de en transition. On est encore dans l'influence des Russes de l'époque, notamment Rimsky-Korsakov, mais on est déjà dans les couleurs, dans la description au sens où cette œuvre est un ballet. Elle accompagne l'oiseau de feu, Azote de feu, histoire assez merveilleuse. C'est Izan Tsarevitch qui est amoureux de la princesse à la beauté sublime, et un oiseau qui l'a capturé va négocier sa libération contre une plume en lui disant que cette plume le sauvera un jour. En effet, cette princesse est protégée par Katcheyev, un démon, qui va emprisonner Izan Tsarevitch, qui ne sera libéré qu'avec la plume, pour ensuite épouser la merveilleuse princesse à la beauté suprême. On voit quand même, et nous en reparlerons, que Stravinsky savait aussi ressentir des émotions, même s'il souhaitait ne pas les transmettre. Écoutons deux extraits de L'oiseau de feu. Thank you.
Après la rencontre de Stravinsky, de Rimsky-Korsakov, l'autre grande rencontre de sa vie et de sa carrière, c'est celle de Diaghilev, le fondateur des ballets russes, ce grand maître de ballet, qui connaissait déjà Stravinsky, car il avait été impressionné par ses premières œuvres et lui avait demandé d'orchestrer des œuvres de Chopin pour son ballet Les Sylphides. Et cette collaboration va, on va dire, exploser, entre guillemets, par la composition de Stravinsky, dont nous venons d'entendre un extrait, L'oiseau de feu, car ils se rencontrent à Paris. Et alors que Stravinsky travaille en Ukraine sur son opéra Le Rossignol, Diaghilev lui demande instamment de venir à Paris et lui commande l'orchestration de L'oiseau de feu. Immense succès qui fait de Stravinsky, qui était un auteur, un compositeur connu, mais sans plus, devient un succès absolument immense. Et cette collaboration va se prolonger, car alors que L'oiseau de feu est encore bien ancré dans la tradition post-romantique, Diaghilev va demander à Stravinsky d'orchestrer deux partitions fondamentales, 1911 Petrouchka, dont nous entendrons un extrait à la fin de l'émission, et puis surtout l'œuvre qui va faire connaître Stravinsky dans le monde entier et depuis, puisque c'est une œuvre qui est jouée partout, Le Sacre du printemps. Alors là, on assiste à une rupture totale de Stravinsky par rapport à L'oiseau de feu, qui reste encore assez post-romantique. Là, on abandonne tout. Le rythme, la dynamique de la musique devient absolument prépondérant. On part dans des tonalités multiples, un petit peu dans tous les sens, et puis on juxtapose des séquences rythmiques. Écoutons donc cette œuvre qui, lorsqu'elle est écoutée pour la première fois à Paris et dirigée par le grand chef d'orchestre français Pierre Monteux, va faire que on va friser le pugilat, tellement cette musique est totalement révolutionnaire. Donc un extrait de cette musique, Le Sacre du printemps.
Nous sommes au début du XXe siècle, que l'on pourrait qualifier d'époque de rupture. Il y a des époques où les choses continuent, il y a des époques un peu charnières, où il y a des transitions qui se passent bien, puis il y a des moments de rupture. En matière de ballet, ce fut le cas avec Diaghilev, qui dans tous ses ballets, n'avait pas de tutu, mais au contraire des costumes flamboyants. Et d'ailleurs, c'est à l'origine pour beaucoup, plus peut-être que la musique, du scandale du sac du printemps. C'était pour beaucoup dû à l'attente des spectateurs qui s'attendaient à voir la Belle au bois dormant de Tchaïkovski en tutu et qui tout d'un coup, au lieu du cygne, voit arriver un fou plein de couleurs qui dansait, Nijinsky et Diaghilev qui ordonnait un ballet totalement révolutionnaire. Eh bien, en musique, c'est un peu la même chose. On sort du 19e siècle, les grands se sont éteints, je pense à Liszt, Chopin, Brahms et Wagner. Wagner est omniprésent, mais Wagner peut-il avoir une descendance? Il va y avoir Mahler et Richard Strauss, qui sont des post-romantiques. Et puis, il y a les révolutionnaires, sans le vouloir d'ailleurs, mais qui ont ça en eux. Je pense notamment et surtout à Debussy, à Ravel et à Stravinsky, qui vont vraiment apporter une rupture totale par rapport au monde antérieur. On a pu voir les premières œuvres de Stravinsky, et vous venez d'écouter Le Sacre, qui est vraiment en rupture absolue avec le post-romantique tel qu'a pu l'exprimer Richard Strauss ou Mahler. Et d'ailleurs, Stravinsky était venu établir ses pénates, comme il disait, en France, car il disait « c'est en France, à cette époque, que battait le pouls du monde en matière culturelle ». Donc il y a trouvé sa place, et il était très ami et très admiré, et il rendait l'admiration par Debussy, Ravel. Il avait comme grand ami Picasso. On voit que tous ces gens révolutionnaires se sont fréquentés, aimés et appréciés. Nous allons maintenant écouter une petite œuvre qui a marqué aussi l'époque, qu'il a écrit sur un support littéraire de Ramus, écrivain vaudois, l'histoire du soldat. L'histoire du soldat s'est écrit en pleine guerre de 14-18, donc bien sûr c'est teinté de militarisme ou de la violence des armes, mais c'est aussi une histoire inspirée de Faust, puisque le soldat en fait a vendu son âme, en l'occurrence son violon, au diable contre 3 années où il pourra prédire l'avenir. À l'origine, il l'avait vendu pour 3 jours, mais le diable l'a évidemment escroqué et lui a pris 3 années et non pas 3 jours. Il s'est enrichi énormément, mais il est devenu fou parce que, quelque part, il n'avait plus d'amis. Il s'est déconnecté du monde et il a tout perdu dans une partie de cartes contre le diable où il a voulu s'échapper à tout ça. Et finalement, il finira aux enfers. Écoutons cette œuvre très intellectuelle de ce début de siècle qui était faite à l'époque pour être jouée dans les campagnes par un petit orchestre de cirque. Vous verrez la teinte de la musique de cirque. Et chaque époque a ses malheurs, n'a pas pu se faire à cause de la grippe espagnole. À l'époque, ce n'était pas le Covid, mais c'était la grippe espagnole. Donc le cirque n'a pas pu se déplacer pour jouer l'histoire du soldat.
Entre danger de Neuzy, un soldat qui rentre chez lui. Jour de congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà. « a marché, a beaucoup marché. S'impatiente d'arriver parce qu'il a beaucoup marché. Il n'y a pas, c'est un joli endroit. Mais le fichu métier qu'on a. Toujours en route, jamais le sou. C'est ça, mes affaires sans dessus-dessous. Mon Saint-Joseph qui est perdu. C'est une médaille en argent doré avec Saint-Joseph, son patron, dessus. Non, tant mieux. Va toujours fouillant, sors des papiers avec des choses dedans, sors des cartouches, sors un miroir, tout juste si on peut s'y voir. Mais le portrait, où est-ce qu'il est ? Un portrait de sa bonne amie qui lui a donné son portrait. Il l'a retrouvé. Il va plus profond. Il sort un petit violon.
On voit que c'est du bon marché, il faut tout le temps l'accorder.
Avec cet extrait de l'histoire du soldat, nous sommes entrés effectivement dans la période dite néoclassique de Stravinsky qui va se poursuivre en 1920 avec Pulcinella, inspiré de compositeur ancien Pergolèse. Et puis Stravinsky, donc Bruno l'a dit, il s'est transplanté en France avec sa famille. Il a quitté la Suisse. Et il va vivre en France, à Carantec, dans le Finistère, dans la villa de Coco Chanel, une de ses grandes amies. Effectivement, beaucoup échangé ensuite à Biarritz avec Ravel, et puis être également le grand ami du célèbre pianiste Arthur Rubinstein. Cette période néoclassique va connaître la composition d'un oratorio qui est Œdipe Roi, qui également va mener Stravinsky à composer d'autres œuvres comme la symphonie de psaumes. Cette symphonie de psaumes extrêmement impressionnante, éventuellement, regardez-la autant que vous l'écouterez sur YouTube. Il y a l'orchestre est filmé, il y a deux pianos. C'est une œuvre très impressionnante, effectivement, qui fait revenir Stravinsky dans un style néoclassique. Donc un extrait de la symphonie de psaumes 1930.
Thank you.
Si on peut créer son époque, c'est le cas de Stravinsky qui a créé la musique de son époque, on ne peut pas toujours s'en échapper. On peut retrouver dans cette œuvre des modes d'orchestration qui proviennent de Wagner, et puis un lyrisme, n'en déplaise à Stravinsky, que l'on retrouvera chez Poulenc dans les œuvres religieuses à la même époque. Donc on voit que Stravinsky, s'il a des idées bien arrêtées, est néanmoins totalement immergé dans son époque, en sachant qu'il participe beaucoup à la création de son époque. Il a eu cette période en Suisse, puis la période en France. Très souvent, d'ailleurs, il a dû s'échapper. Il a quitté la Russie avec la Révolution russe et la Première Guerre mondiale, pour aller en Suisse. Ensuite, il devra quitter la France en 1940 du fait du conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Et il va s'installer aux États-Unis. Là, il va peaufiner ses recherches, on va dire, en matière de musique. Et il va aller dans la direction de la musique sérielle, à l'image des créateurs qu'ont été Schoenberg et Webern, qui ont donc inventé ce nouveau processus. Difficile à expliquer. Qu'est-ce que veut dire sériel ? Ça vient du mot série. Dans une gamme tonale, il y a 12 notes, 12 sons. Do, do dièse, ré, etc. Tout ça, lorsqu'on arrive à nouveau au do, ça fait 12. Eh bien, les compositeurs ont voulu à cette époque s'affranchir de la tonalité, c'est-à-dire que lorsqu'on écrit une œuvre, vous remarquerez toujours qu'elle est écrite en do majeur, en ut dièse mineur, en la mineur, en ré. Donc on a une tonalité qui frappe l'ensemble de l'œuvre ou l'ensemble d'un mouvement. De temps en temps, on s'en échappe pour y revenir. Eh bien là, non. Le principe de la série, c'est de dire on a 12 notes. On va jouer ces 12 notes dans un ordre presque de hasard. En fait, le compositeur les place les unes après les autres et on va s'y référer. Donc, on ne se réfère plus à la tonalité en do majeur, on se réfère à la série d'une manière implacable. On la respecte, il y aura les 12 notes et on les reproduira et on inventera, on construira une harmonie autour de ces 12 notes. Ça donne une musique qui, même encore aujourd'hui à nos oreilles, n'est pas parfaitement lisse parce que très probablement, nous ne sommes pas des experts en matière musicale, mais très probablement, on est immergé dans la tonalité. La tonalité, elle existe depuis Bach. Et puis aujourd'hui, on l'a au quotidien. Et les chansons sont écrites dans une tonalité. Donc tout notre univers, nous sommes immergés dans la tonalité. Donc s'en échapper, c'est assez difficile. C'est un peu comme si on prétendait aller respirer sous l'eau, pour faire une comparaison probablement hasardeuse. Néanmoins, nous allons écouter une œuvre de Stravinsky sous le mode sériel qu'il a donc composé aux États-Unis. Aux États-Unis, où il aura aussi eu cette particularité d'avoir participé à l'ensemble de l'enregistrement de son œuvre, pour une bonne part lui-même comme chef d'orchestre, et sinon aux côtés de chef d'orchestre. Donc on a ce cas, ça c'est lié, je dirais, à sa longévité et au fait qu'à son époque est arrivé le disque et qu'il avait ce statut de statue vivante de la musique et du créateur au XXe siècle. Donc il a pu parrainer, or il a pu diriger ou parrainer, lorsqu'il était fatigué, l'enregistrement de ses œuvres aux États-Unis. Écoutons la passacaille du septet.
Je remercie infiniment Bruno d'avoir expliqué ce qu'était le sérialisme. J'ai enfin compris ce concept qui m'échappait, non sans avoir essayé de le comprendre en lisant des ouvrages, mais ces ouvrages étaient tellement compliqués que justement leur sens m'en échappait. C'est tout l'art de la pédagogie de Bruno, c'est l'art du grand pédagogue d'expliquer avec des mots simples des choses très compliquées, voilà, et de permettre à son auditoire de les comprendre. Nous abordons l'ultime période créatrice de Stravinsky, effectivement, dans le sérialisme. Ce sérialisme va se prolonger, en fait, jusqu'à sa mort, en 1971. Et avant d'être enterré à quelques pas de la tombe de Diaghilev, ce qu'il avait souhaité dans le cimetière San Michele de Venise, la composition de Stravinsky va se resserrer, va se simplifier, se dépouiller, devenir toujours sérielle mais extrêmement austère et d'inspiration religieuse qui occupe une place de plus en plus importante dans son œuvre. On peut penser un petit peu à ce parallèle avec Poulenc. Nadia Boulanger, qui porte au pinacle Stravinsky lorsqu'on l'écoute dans ses conférences, explique qu'il était orthodoxe et finalement il a fini fanatiquement croyant, disait-elle dans le texte. Donc il va composer ses dernières œuvres, notamment le Requiem Canticle en 1966, qui est un peu le résumé de toute son œuvre, qui pour la période sérielle fera de lui une sorte de porte-parole, de synthétiseur de cette réaction musicale tout à fait majeure dans le XXe siècle. Écoutons, pour quitter cette période sérielle et pour en revenir à une œuvre de jeunesse qu'il a fait beaucoup connaître avant le Sacre du printemps, c'est Petrouchka. Il y a de nombreuses versions de Petrouchka pour caisse, pour piano, pour deux pianos, dans une version pour piano solo. Petrouchka.
Thank you.
Je laisserai le dernier mot pour conclure cette émission à celui qui fut un grand ami de Stravinsky. Paul l'a cité, Arthur Rubinstein, le très grand pianiste d'origine polonaise qui a traversé le XXe siècle et l'a quelque part dominé. Il a été parmi les stars du piano mondial. Très ami avec Stravinsky et qui contestait complètement, il le cite dans ses mémoires, cette phrase de Stravinsky qui disait « la musique n'exprime rien ». Et il disait, et il jouait l'œuvre que vous venez d'entendre avec délice en rappelant chaque fois que cette musique était pleine d'émotions et que donc Stravinsky était dans l'erreur, mais dans une obstination intellectuelle, mais néanmoins dans l'erreur, parce que la musique, y compris celle de Stravinsky, c'est l'émotion. Encore une fois, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Arthur Rubinstein. Nous avons écouté au cours de cette émission le Ragtime par l'orchestre L'Amoureux avec Cyril Dupuis au cymbalum, à citer car le cymbalum est rare, mais nous y reviendrons dans d'autres émissions, suivi par la fin de ce Ragtime par Noël Lee, grand pianiste français. Ensuite, la symphonie, un extrait par le Russian National Orchestra, dirigé par Mikhail Pletnev. Ensuite, L'Oiseau de Feu, deux extraits par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Mikko Frank. Puis Le Sac du Printemps, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, toujours Mikko Frank. Ensuite, vous avez pu écouter, pour ceux qui ont un peu d'âge, malheureusement comme Paul et moi, les voix de François Perrier, grand acteur français, et de Philippe Clay, aussi grand acteur français et qui s'est illustré dans la chanson, qui étaient donc qui parlaient dans l'histoire du soldat qui était interprétée par le Boston Symphony Orchestra. Puis la symphonie des psaumes, sous la direction de Christian Jarvi. Ensuite, le Boston Symphony Chamber Players pour la Passacaille. Et enfin, l'illustre pianiste virtuose et qui a montré son énergie à l'image de la musique de Stravinsky dans Petrouchka, Danil Tripvanov. Notre prochaine émission sera consacrée à, je dirais, nos coups de cœur, à Paul et moi, hors des grands standards de la musique. C'est des petites œuvres, plus ou moins grandes, qui nous séduisent et qui nous bercent et qui sont un peu nos musiques secrètes et que nous vous dévoilerons. À très bientôt donc, et d'ici là, écoutez Radio B et passez un bon mois. À bientôt.
À bientôt.